Le temps de lire. Chaque mois, retrouvez les coups de cœur littéraires d'Anne-Françoise. Le temps de lire. Présenté par Anne-Françoise Rocchitelli.
L'obscurité dégageait un parfum métallique. À chaque fois qu'elle sentait ce goût de fer, cet air qui s'infiltrait sous la porte et à travers les fenêtres, fermées par des morceaux de scotch gondolant sous l'humidité, comme si les bois poussaient un long soupir, elle savait qu'il allait pleuvoir. Alors, le cou rentré dans sa parka militaire, elle fonçait dans le noir vers la corde à linge, en évitant de regarder la forêt, cet espace infini prêt à vous avaler, une immense bouche plus sombre que la nuit. L'esprit de la forêt était là, juste derrière le drap qui remuait dans l'air, tel un rideau ouvrant sur un autre monde. Il était là, entre le drap et le bois noir, avec une cape, un manteau végétal ou des ailes de plumes soyeuses. Avançant très lentement, se déplaçant sans effort, paraissant flotter au-dessus du sol. Un esprit femelle avec de tout petits seins en pointe rose. Il ne portait rien d'autre. Sa peau aussi blanche que le poitrail d'une biche, ses pieds nus, menus, dans la terre. Bien sûr, il y avait du sang, et ses griffures sur tout le corps, mais son visage rayonnait. Ses cheveux blonds diffusaient la même lumière pâle que la lune entre les branchages, une arche délicatement tressée autour de sa peau. Il se dégageait de la scène une douceur laiteuse, quelque chose d'infiniment serein. La créature de la forêt s'était immobilisée. Ses yeux clairs avaient fixé Martin un instant, mais sans la voir, ou comme s'il regardait au plus profond d'elle. Martin avait peut-être crié, ou bien elle avait juste ouvert la bouche, ou encore leurs esprits avaient échangé des pensées invisibles, un message dans une langue qu'elle avait oubliée. Un oiseau s'était envolé dans un craquement de branches au-dessus de sa tête. Des eaux qu'on brise, avait-elle pensé. Et quand elle avait baissé les yeux, la créature avait disparu.
Éden de Monica Sabolo aux éditions Gallimard, c'est le livre que tu nous présentes aujourd'hui, Anne-Françoise, dans Le Temps de Lire. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Un livre qui parle de nature, notamment.
Notamment et surtout de forêt, on va voir qu'on retrouve très très souvent le mot forêt dans ce livre. C'est un livre que j'ai choisi, j'avais pas choisi ce livre à l'origine, et en fait je suis tombée dessus, on tombe sur les livres où sautent aux yeux, c'est marrant. Et j'ai lu ce week-end quasiment d'une traite et je me suis dit, bah, finalement, je vais parler de ce livre, notamment parce qu'il parle de poésie et aussi de frontières. Donc je laisse les auditeurs comprendre. Voilà. C'est un... Alors Monica Sabolo, en fait, je l'avais découvert avant parce que c'est une écrivaine française, comme son nom ne l'indique pas forcément, qui est née en Suisse et qui a écrit cette année La vie clandestine, un livre dont on a beaucoup parlé, qui a été sur les listes de beaucoup de prix, qui n'a pas eu de prix en fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'ai essayé de savoir ce qu'elle avait... J'en avais jamais entendu parler avant. Voilà, on découvre toujours des choses. Et j'ai lu un autre livre qui s'appelle Summer, qui a été écrit en 2017, et puis là celui-ci qui est donc sorti en 2019. Et en fait elle on retrouve quand même beaucoup, enfin on sent, c'est le genre d'écrivain en fait qui parle même si ça se passe dans des décors et des endroits et des contextes différents, mais qui parle un petit peu tout le temps des mêmes sujets, c'est-à-dire le passage à l'âge adulte, l'adolescence, la filiation, la recherche des origines, les secrets, beaucoup les secrets, hein, la vie clandestine, mais là aussi. Et ce livre, c'est ce qu'on peut appeler un... Au départ, je me suis dit, bon, c'est pas mal, mais c'est ce qu'on appelle un récit de... un roman d'initiation, un récit d'initiation. Ça m'a fait penser à un autre livre. Les récits d'initiation, c'est quelque chose d'assez classique, d'ailleurs, surtout dans la littérature américaine au départ. Un des plus connus, c'est celui de William Golding, Sa Majesté des Mouches, qui parle de groupe, en fait, l'initiation par le groupe, et il y a le côté un peu bizutage dedans. Et il y en a un autre auquel j'ai pensé en lisant ce livre, bon, qui est beaucoup plus noir, mais quand même, qui s'appelle Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est une écrivaine américaine. Et ça rappelle un peu des choses comme ça. Ça se passe en fait aux États-Unis. Alors on ne sait pas où ça se passe, hein. Il n'y a aucune indication de lieu. Mais On comprend que ça se passe dans une réserve indienne. En fait, la plupart des personnages, et notamment la narratrice, sont indiens. Et c'est un endroit où il y a des indiens. Enfin, elle va à l'école, elle est lycéenne, et il y a des indiens, et il y a des blancs. Et notamment, comme ça se passe au bord d'une forêt, en bordure d'une forêt, il y a des blancs qui viennent là pour exploiter la forêt.
Mmh. Et donc ça va être aussi la rencontre des deux mondes, finalement.
Voilà, c'est ça. Donc déjà, effectivement, il y a une frontière entre ces deux mondes très différents et c'est assez, comment dirais-je, pessimiste quand même sur le côté quand on est blanc, on est blanc, et quand on n'est pas blanc, on n'est pas blanc. Mmh. Et on a beau être en 2019, ou quand le livre est écrit, ça paraît difficile de traverser la frontière, en fait.
On est dans l'époque actuelle.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un récit. Alors, pour avoir lu pas mal de romans d'initiation comme ça, je constate, enfin, j'ai l'impression que ça évolue et que on arrive de plus en plus, notamment quand ce sont des femmes qui écrivent. Hein, mais il y avait aussi des femmes qui écrivaient avant, puisque Donna Tartt était une femme. Ça devient plus des récits d'émancipation où l'héroïne, d'ailleurs, souvent, va finalement se libérer de la... Donc, je ne veux pas spoiler l'histoire. Hein, de la... Avant, il fallait se fondre dans le groupe. Justement, le principe du bizutage et tout ça, c'est qu'il faut passer des épreuves pour appartenir au groupe. Et là, l'idée, c'est plus de finir par se libérer. On est dans une époque où aussi les gens, notamment les femmes...
C'est intéressant. Aujourd'hui, l'initiation passe par l'émancipation du groupe.
Voilà, quelque part, il faut passer par cette étape, mais arriver à s'en émanciper. Et c'est quelque chose de beaucoup plus libérateur, par définition. Donc, c'est un roman, en plus, qui est très, très... c'est pour ça que ça m'a fait penser au Printemps des Poètes aussi, parce que... Il est écrit dans une langue très poétique. Alors, évidemment, ça ne veut rien dire. C'est comme quand on lit un livre bien écrit, ça veut dire quoi, poétique? Mais la langue de Monica Sabolo, de mon point de vue, est une écriture très fluide, très douce. Et puis là, comme c'est une héroïne qui raconte une histoire qui est passée, en fait, on sent qu'elle revit ses souvenirs. Il y a une espèce d'atmosphère et des souvenirs qui ont été douloureux. Il reste une part de mystère. Dans tout le récit, il y a une atmosphère assez languide, nostalgique, quand même très chargée de mélancolie. Elle a vécu quelque chose de difficile, elle s'en est libérée, mais en même temps, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Et de toute façon, ça reste toujours dans ce registre de... comment dire ? Dans ce registre un peu... en communion avec la nature. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait la frontière entre... les indigènes, les indiens, qui sont... On ne dit jamais les indiens, d'ailleurs, dans le livre, on comprend. Les natifs, quoi, de cet endroit, qui, eux, vivent vraiment en osmose avec la forêt, même s'il y a ce côté, on l'a vu, mystérieux de la forêt, mais qui fait peur, par moments. Et les blancs, qui, eux, exploitent la forêt, en fait, viennent dans la forêt seulement pour l'exploiter, couper les arbres et détruire, finalement. Et quelque part, dans ce livre, il y a aussi un petit côté... écoféministe, je dirais, avant la lettre, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. En 2019, on n'en parlait pas encore tant que ça. C'est absolument pas dit. De toute façon, c'est pas un livre militant ni rien. Mais malgré tout, il y a ce mélange entre l'histoire d'une jeune femme et de plusieurs jeunes femmes d'ailleurs. Et parce qu'il y a aussi la frontière entre les hommes et les femmes. Et c'est assez, c'est assez brutal dans ce livre quand même. Et puis.
Oui, en tout cas, je vais te poser la question, il y a l'air d'avoir une dimension profondément écologique.
Oui, écologique et en même temps, comment dire, écologique au sens vraiment, comme je le disais, osmose, communion avec la nature. Il n'y a pas de discours sur la nature, mais il y a ceux qui finalement arrivent à vivre dans la forêt, sont acceptés par la forêt, peuvent... pénétrer dans la forêt, c'est vraiment le mot. Et puis ceux qui, au contraire, ils vont éventuellement pour couper des arbres. Et puis il arrive des choses dans la forêt. La forêt peut être... on peut penser au début dans ce livre que la forêt peut être agressive. En fait, on verra vite que c'est pas du tout la forêt qui est agressive. Justement, c'est les gens qui ne la comprennent pas, quelque part, qui vivent pas en harmonie avec elle, voilà, c'est le mot, qui sont agressifs. Et la forêt, elle protège plutôt...
C'est en tout cas assez raccord avec la notion un peu amérindienne de l'écologie, où justement on doit être en osmose avec la nature.
C'est
et
ça.
Eux ne comprennent pas même qu'on la détruise, en fait, puisqu'ils n'ont pas du tout cette... Ils n'ont pas eu besoin de conceptualiser l'idée qu'il faut protéger la nature.
C'est ça, exactement. C'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est une espèce d'écologie native et naturelle. Bon, c'est un peu simpliste comme mot, mais traditionnelle. En fait, on vit de toute façon... Enfin, les peuples amérindiens vivaient en harmonie avec la nature et les Blancs sont venus exploiter la nature. Donc, c'est, à partir de là, bah oui, il y a une frontière entre les deux peuples. Donc c'est un récit quand même, il va se passer des choses, on sent qu'il s'est passé des choses, c'est à la fois au passé et au futur, parce qu'elle, elle le raconte, mais nous, on attend la suite, donc c'est ce mélange aussi qui installe une tension dramatique dans le roman, et elle nous dit dès le départ ce qui s'est passé, on ne comprend pas, et on va mettre tout le livre à le comprendre. Donc je vais lire un deuxième passage pour...
Je t'écoute.
Les semaines qui suivirent, il ne se passa rien. Le monde était chaque jour entièrement neuf. La lumière de juin éclairait la végétation qui semblait avoir éclos dans la nuit. Quand je croisais Lucie, elle prétendait ne pas me voir. Elle paraissait plongée dans ses rêveries ou fouillait brusquement dans son sac. Kishi était toujours un peu maussade. Nous nous regardions de loin, postés de chaque côté d'un pont. Le cri des tronçonneuses déchirait l'atmosphère des après-midi immobiles. Je me sentais désœuvrée, pleine d'une force languide. Quelque chose grandissait en moi, une plante grimpante née dans mes rêves, déroulant ses longues feuilles luisantes. Un après-midi, j'étais allée me promener au bord du lac. De loin, j'avais entendu des voix, des rires, de la musique qui sortait d'un transistor. J'avais aperçu leur silhouette de loin, blouson en cuir, lunettes noires. Mon cœur avait bondi dans ma poitrine. Je les avais reconnus avant même de pouvoir distinguer leurs traits. Un mouvement de cheveux, une façon de lever le bras, balayant l'air, des bagues lançant des éclats. Les filles du Hollywood. Elles étaient assises en cercle, sur leurs draps de bain, dans des tenues sombres qui tranchaient avec le ciel et l'eau vert clair. Elles ressemblaient à un morceau de nuit et de danger explosé en plein jour. Je reconnus d'abord Eaoui, la cousine de Kishi, avec sa tête rasée d'un côté. Elle était appuyée sur ses bras, les jambes allongées devant elle, impassible derrière ses lunettes de soleil. Ellie était assise en tailleur. Sa peau nue se détachait entre un short en jean et des bottes de moto. Ses cheveux étaient encore plus courts, coupés en brosse. En face, Baby jouait avec sa natte, la tête posée sur l'épaule de Diane, blême dans la clarté de l'après-midi. Un peu à l'écart, Grace était annoncée sur le côté et sa chevelure l'entourait comme un châle. Elles avaient toutes posé à leur côté une bouteille de bière au reflet verdâtre. Derrière, les montagnes et les sapins se reflétaient dans l'eau. Une symétrie parfaite donnant la sensation d'un monde inversé, juste sous la surface. Elle dégageait quelque chose de surnaturel, dans ce décor limpide auquel elle semblait indifférente.
Alors, nous avons des nouveaux personnages par rapport aux derniers extraits. Et ce qui a l'air intéressant, c'est que des personnages qui ont l'air très différents et en même temps très proches. C'est des membres de famille qui ont suivi peut-être deux voies différentes.
Alors en fait, il va y avoir une rencontre qui va s'établir entre la narratrice, qui s'appelle Nita, et on entend très peu son nom, on lit très peu son nom dans le livre, et puis les filles du Hollywood. Le Hollywood étant un bar en fait.
D'accord.
Comme on peut imaginer le bar dans ces endroits un peu... glauque des États-Unis où c'est les gens c'est les hommes en fait les exploitants de la forêt qui viennent et qui forcément ont envie de se détendre.
Et qui ne sont pas
détendre.
Du tout ces filles Hollywood ne sont pas du tout amérindiennes.
Si. Après okay. C'est pas toujours très évident clair. Dans le livre, mais en fait il y a un seul personnage dont on parle qui est Lucie qui est blanche. Et qui a eu un lien avec toutes ces filles-là, mais finalement... la différence, en fait, entre les filles de Hollywood et puis Nita, c'est qu'elles sont plus âgées, et qu'elles sont serveuses dans ce bar, et qu'elles ont vécu, en fait, des expériences, et des... Enfin, subi, même, des expériences qu'elles n'a pas connues, et donc qu'elles vont... Comment dire ? Elles ont élaboré quelque chose que... qui va être pendant très longtemps mystérieux pour Nita. Enfin, il y a quelque chose qui se passe entre elles qu'elle qu'elle imagine même pas. Elle sait pas ce qui fait leur complicité, leur connivence, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui fait partie en fait du mystère, de tout le mystère de cette histoire.
D'accord.
Et qu'on va comprendre, qu'on va deviner en fait petit à petit, parce que c'est pas non plus un roman policier, donc l'idée c'est pas qu'on ait la réponse à l'énigme à la dernière phrase. Hein. Mais justement, le charme de ce livre, c'est que petit à petit, il y a des personnages qui apparaissent, il y a des choses qui se dévoilent, et en fait... on comprend ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et que la violence, en fait, ne vient pas du tout de là où on pourrait l'imaginer, mais de moins en moins dans le monde d'aujourd'hui. On imagine ça. Enfin, en tout cas, une partie des gens qui se posent des questions. Je peux lire un autre passage ?
Bien sûr.
Nous nous glissâmes dans la nuit et ce fut comme entrer dans un nuage. L'air était moite et doux. Le ciel, d'un bleu sombre, nous dissimulait aux yeux du monde. Les filles se mirent à courir. Gracieuses, rapides. Pas un mot ne fut prononcé. Je jetai un œil à la route déserte et m'élançai derrière elles, ajustant mes foulées aux leurs. Nous entrâmes dans la forêt, en file indienne. Les hautes branches remuaient sous la brise. Ellie se retournait à intervalles réguliers pour vérifier que nous étions toutes là. Ces bois attrapaient la lumière de la lune. Au bout d'un moment, je fus capable de distinguer leur souffle, la respiration hachée de Baby, l'inspiration sifflante de Diane, le tout sautement d'Ellie. Par instant, l'une ou l'autre me frôlait, la douceur d'un plumage, l'éclat d'une fourrure. Les arbres s'écartaient pour nous ouvrir la voie. Le vent s'engouffrait dans les feuillages, faisant monter l'excitation, accélérer nos cœurs et nos foulées. Nos yeux voyaient dans l'obscurité, mais nous étions invisibles. Nous étions une harde sauvage. Nous étions la nuit et le vent. Nous étions la forêt. Nous étions la permanence de toute chose en mouvement. Nous étions sans fin ni commencement, le souffle et la pulsation de la terre. À travers nos yeux s'ouvraient ceux de la forêt. Nous battions des paupières, et dans l'ombre, les animaux battaient des paupières et voyaient ce que nous voyions.
On sent bien ce rapport osmotique à la forêt, finalement.
Voilà, c'est ce qui... En fait, à un moment, le récit va basculer. Pendant à peu près la première moitié du récit, elle raconte qu'il s'est passé des choses, sans trop donner de détails. Et il y a des mystères, donc il y a une espèce de peur un peu qui s'installe dans la communauté. Et puis, une petite communauté tranquille, hein. Mais les gens continuent à vivre normalement. Et puis, en fait, c'est la narratrice, en fait, qui va, à partir du moment où elle va rencontrer les filles du Hollywood, qui va commencer à participer à des choses que je ne raconterai pas, évidemment. Et du coup, le récit bascule et on pénètre dans la forêt à différents moments, pas seulement d'ailleurs avec les filles, parce qu'il y a aussi des personnages de garçons hein, quand même dans ce livre, et puis c'est une histoire d'adolescence, donc on est confronté à un moment ou à un autre, il y a des personnages de garçons, il y a des personnages d'hommes qui sont tous plus ou moins, on va dire, ambigus, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop. En fait, c'est vrai qu'on retrouve, et de toute façon, dans les romans, enfin j'ai lu 3 romans de Monica Sabolo, mais elle parle quand même énormément des questions d'agression sexuelle, des choses comme ça, et quelle que soit la façon dont ça peut se passer. Et en fait, on sent toujours cette espèce de crainte, en fait, c'est drôle parce que j'en parlais ce matin avec une amie, mais de crainte, enfin, ça paraît un peu incroyable de dire ça, en tout cas aujourd'hui, en 2023, hein, mais... de crainte presque instinctive malgré tout, en tout cas d'une jeune fille de, je sais pas, 16 ans mettons, à peu près, en face des personnages masculins, voilà. Que ça soit en fait des gamins de son âge, hein, de son lycée qu'elle connaît depuis tout petit, mais qui peuvent révéler des envies ou des choses un peu inattendues à ce moment-là.
C'est que le rapport homme-femme dans sa dimension conflictuel, si on peut dire comme ça, et intégrer complètement la psychologie du personnage.
Complètement, du personnage, et puis au récit, en fait, à l'écriture, parce qu'on sent que finalement, c'est une femme qui raconte, et quelque part, il y a cette espèce de rapport de force, de rapport de domination, qui fait que Ben, le masculin, ça représente quand même globalement un danger. Et même quand... Enfin, il y a une confiance qui n'est pas possible à installer. C'est-à-dire que même quand les personnages paraissent gentils, marrants, quand c'est des jeunes ou protecteurs, il y a un personnage de policier à un moment, enfin voilà, on ne sait pas si, si on peut faire confiance, quoi. Et c'est je répète que ce n'est pas du tout un livre militant. C'est vraiment un roman... Pour moi, c'est un roman extrêmement poétique. Et ça transparaît en fait dans l'atmosphère du livre, cette espèce d'anxiété en fait permanente, à la limite, c'est ça qui fait peur en fait. C'est pas la forêt, c'est le côté, l'espèce de présence masculine qui de temps en temps, par des bruits ou des sensations ou des choses un peu bizarres, des phénomènes bizarres, apparaît dans la forêt et on verra que le danger n'est pas forcément où on croit qu'il est, mais... Ou en tout cas que, si, il est bien là où on pense qu'il est, mais à un moment, il y a des personnages qui décident de prendre leur revanche et ça va s'avérer assez...
Ça a l'air difficile à expliquer assez sans
terrible.
Révéler les...
Voilà, c'est ça, il ne faut pas
sans
raconter.
Sans révéler les clés de l'intrigue.
Il ne faut pas raconter, mais il faut savoir que c'est un livre qui emporte. Alors, je peux, malgré tout, sans tout révéler, lire quand même un petit passage de la fin.
Eh bien, allons-y.
Pourtant, elles sont là. Je marche dans le désert et je les sens. Elles sont l'herbe pâle qui ressurgit entre les racines. Elles sont les vers et les racines sous la pierre. Elles sont l'air lui-même. Je marche sur la terre. Et je sais que la forêt renaîtra. C'est une palpitation presque inaudible, un frémissement dans les cendres. Je sais qu'un jour je le verrai là-bas, une ombre filant entre les arbres. Il s'immobilisera un instant et je le reconnaîtrai. Mon chevreuil, ses yeux pleins de miséricorde. Puis il s'évanouira aussitôt d'un bond gracieux dans le néant. Le monde est devenu autre, et moi, dans un étrange mouvement inverse, je ne veux plus partir. Je veux être là où est la forêt, là où demeure le mystère et le sauvage, là où je peux cacher mes rêves, rejoindre mon père, retrouver les filles, là où je peux attendre le retour de Conrad. Là où il y a la possibilité d'un abri, d'un ailleurs. Là où murmure la poésie, notre mémoire. Là où chuchotent les voix des disparus. Rien ne s'évapore. Rien ne disparaît, je le sais à présent. Je ferai le siège de ceux qui ignorent la nécessité du refuge, de la frontière, de l'ombre. Je serai la gardienne du monde obscur des forêts. Je veillerai sur lui. Je me dresserai sur le chemin de ceux qui veulent le détruire. Je me tiendrai debout, minuscule sur la route, dressant des barrages dérisoires. Je serai là, à la lisière, entre le chaos et le silence. Je chercherai le secret caché derrière le paysage, à l'origine.
Le livre n'est peut-être pas militant, mais son héroïne est en tout cas une défenseuse de la forêt, finalement. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se révèle à la fin.
En tout cas, je crois qu'elle se réconcilie, en fait, avec la forêt à la fin, et décide, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, d'y rester. Et je trouve que dans ce dernier passage, c'est la fin, mais ça dévoile pas ce qui se passe dans le livre, on trouve tout le livre. Enfin, tout le livre est dans cette page, en fait, cette... dernière page, et justement c'est aussi justement le parcours d'une jeune fille qui s'interroge, voilà, c'est l'âge transitoire où il y a beaucoup de choses qui font peur, et elle va passer, ben voilà, j'ai dit que c'était un récit d'initiation, c'est quand même ça, mais aussi d'émancipation, parce que elle a pas, finalement elle va passer à travers les gouttes et elle va retrouver refuge, effectivement.
Oui, c'est qu'elle va, elle le dit au début de l'extrait, elle va à contre-courant finalement du mouvement du monde, là où le monde évolue et avance, elle choisit de...
Oui, et puis surtout, elle choisit à un moment où elle aurait pu suivre les autres filles, de ne pas y aller. Et finalement, c'est là que ça devient un récit d'émancipation. Elle se libère, elle se rend compte que la forêt, finalement, est plus un abri qu'un danger.
Bien, Françoise, nous arrivons doucement à la fin de cette émission. Je te propose de finir sur un petit extrait.
Un soir, j'aperçus le garçon au visage d'ange de la station-service. Il était debout, devant le bar, ses cheveux coiffés en arrière. Je me demandais s'il savait ce qui était arrivé à Lucie. Je pensais au bracelet. J'avais l'impression que si je l'avais conservé, tout aurait été différent. Je l'aurais passé à mon poignet. J'aurais vu des choses invisibles, le passé ou l'avenir. Des garçons se seraient approchés de moi, silencieux, les yeux brillants. Je leur aurais souri. Une autre fois, je débarrassais une table quand je vis Baby appuyée contre le mur, le visage pâle. Un homme était penché sur elle. Le néon au-dessus de leur tête donnait un aspect doux et mélancolique à la scène. On aurait dit qu'il dansait, ou que l'homme pleurait dans son cou. Juste à côté, deux types regardaient. L'un souriait, une cigarette éteinte aux lèvres. L'autre buvait une bière, sans quitter Baby des yeux. Il y eut des sifflements, des encouragements. L'homme se retourna un instant, sa main toujours plaquée sur elle. Je reconnus le roux de la station-service. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage empourpré. Baby remuait mollement. Elle semblait se débattre au ralenti. Quand j'y repense, aujourd'hui encore, je ressens cette douleur, une pierre brûlante sur ma peau. Le plus difficile n'est pas de se souvenir des sourires des hommes, de l'étrange électricité qui émanait d'eux. Le plus difficile n'est même pas de revoir cette main qui maintenait Baby, ni cette bouche, qui remuait dans son cou, semblable à celle d'un amoureux languide, ou d'un vampire la vidant de son sang. Le plus difficile est de se rappeler le visage de Baby, ses cheveux nattés, enroulés en macaron, lui donnaient l'air d'une enfant, mais son expression était celle d'une femme, contemplant rêveusement quelque chose sur le côté. Après avoir résisté sans conviction, elle se laissait faire, inerte. En vérité, ce qui se cache derrière ces images, là-bas, tout au fond, c'est la honte. Le souvenir de mon immobilité à moi.
Oui, on voit la dimension tragique que tu nous évoques.
Voilà, mais j'en dirai pas plus parce que maintenant il faut laisser le mystère au lecteur quand même.
Auditeur, que l'on invite donc à découvrir ce livre, Eden, de Monica Sabolo aux éditions Gallimard. C'était ton coup de cœur du mois que tu nous présentais dans Le Temps de Lire. Merci Anne-Françoise.
Merci.
Et on se retrouve le mois prochain pour un autre Temps de Lire.